Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Nous sommes dans une petite commune du Val-de-Marne. L'entreprise de serrurerie fabrique des portes blindées, mais aussi des produits de métallerie, des cylindres, des clés brevetées. Son slogan, c'est « Inventer pour protéger ». Jean-Louis Zilberberg, médecin du travail spécialisé dans le BTP, s'occupe des salariés de cette entreprise. À sa façon, lui aussi a été inventé pour protéger les salariés. Mais le 28 novembre 2023, il est pourtant convoqué devant le Conseil de l'Ordre des médecins, saisi par la dite entreprise. Il lui est reproché, du moins si on en croit l'humanité, d'avoir émis des avis d'inaptitude litigieux de nature à léser de manière directe et certaine l'entreprise. On pourrait aussi le dire autrement en imaginant qu'il a écouté la souffrance de salariés à bout et a voulu les protéger en les déclarant inaptes à leur poste. Jean-Louis Zilberberg sera interdit d'exercice médical pendant 1 an, dont 6 mois avec sursis, par la Chambre disciplinaire régionale de l'Ordre des médecins d'Île-de-France. Son cas n'est hélas pas isolé de ces médecins qui sont à l'écoute d'une patientèle précarisée, abîmée, usée, en souffrance en raison de leur travail ou de la dure vie dans les quartiers défavorisés. Aujourd'hui, justement, on fait connaissance avec l'un d'entre eux. Il est installé depuis 30 ans dans un quartier populaire de Dieppe. Il s'appelle Dominique Tribillac et il est dans le collimateur de la Sécurité sociale. On lui reproche de délivrer trop d'arrêts de travail. Leïla Djitli est allée le rencontrer.
Alors, je suis Dominique Tribillac. Les gens qui m'appellent naturellement docteur, parce que ce sont mes patients, je trouve ça bien. Mais ceux qui m'appellent docteur, quand ça n'est qu'un titre, je trouve ça un peu ridicule. Donc, je travaille au Val-de-Ruel, à Dieppe. Le quartier du Val-de-Ruel, c'est un quartier défavorisé. Mais j'ai un peu de mal à le sentir comme ça. J'y suis depuis tellement longtemps et je connais tellement de gens dans ce quartier que défavorisé, ça veut rien dire. Je connais trop de gens à qui l'étiquette ne conviendrait pas. Je suis médecin parce que j'ai été malade quand j'étais enfant. J'ai été très très malade. J'avais de l'asthme. Et c'était tellement fort que je me rappelle que mes crises d'asthme me donnaient l'impression que je risquais de mourir. Et quand mon médecin arrivait le matin tôt, en coup de vent, rien que d'entendre son pas et la façon dont il ouvrait la porte, j'étais déjà mieux. Et ça, il y avait cette espèce de médecin magique qui arrivait, qui m'a laissé des traces. Et j'ai eu envie un peu de ça, moins magique. Mais voilà, aussi important que ça. Et bon, plus tard, j'ai donc commencé des études de médecine. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai eu une déconvenue terrible. C'était pas du tout la médecine que j'espérais. On déroulait des listes de questions sans jamais parler un mot aux patients. Celui qui passait trop de temps, il était déconsidéré. Je me souviens d'une fois où je suis allé à la morgue découper quelqu'un avec qui j'avais bavaché la veille. Il n'y avait pas de respect du tout de la personne. Et plus les gens étaient défavorisés, moins ils étaient respectés. Je pense à un service de pneumologie où il y avait des tuberculeux alcooliques. Vraiment, c'était des morceaux de viande. Hein. Bon, voilà. Donc vraiment, j'étais tellement déçu qu'il a fallu que je fasse autre chose. J'ai fait éducateur, machin, j'ai fait des tas de trucs. Éducateur du handicapé mental. J'ai des accointances avec ce milieu puisque j'ai une sœur handicapée mentale. Bon, ça a duré 1 an et demi, cette période-là. Et c'est après qu'il y a eu l'objection de conscience. C'était la logique. Un médecin ne peut pas faire son service militaire. Un médecin ne peut pas faire un boulot où on tue des gens. C'est le non-sens le plus total. Donc, avec quatre copains, on a décidé de faire l'objection de conscience et les quatre copains se sont fait réformer. Moi seul ai fait l'objection de conscience. Bon, et j'ai fini par ne plus avoir mon sursis médical et donc j'ai été obligé de faire un an des eaux et forêts en tant qu'objecteur de conscience. C'est sympa ça. Essayer de faire tout ce qu'on peut pour ne pas travailler et ne pas prendre le boulot d'un ouvrier forestier. La deuxième année, ça c'était génial, j'ai découvert ATD Quart-Monde. Le gars qui était objecteur avec moi dans la même forêt m'a entraîné. Alors ATD Quart-Monde, c'est une association qui ne se contente pas de parler de la pauvreté. C'est une association où on vit sans arrêt avec. Le type qui a créé cette association, c'était un curé visionnaire. C'était le père Joseph Wrzeszynski, qui avait deux grandes idées forces. La première, c'est les pauvres n'ont pas d'histoire, il faut leur en créer une. C'est toujours d'autres qui ont fait leur histoire. Sa deuxième idée force, c'était on ne peut pas faire quelque chose avec les gens défavorisés si on en laisse sur le bord. Et alors, il faut prendre le temps de comprendre ce que les gens veulent, y prendre le temps d'aller accueillir, prendre le temps de leur dire qu'ils ont leur place. Et donc, j'ai passé des mois à isoler un toit, mais à côté de ça, il y avait des choses enrichissantes. Voilà, donc toute cette année-là, je me suis formé pour aider. Et l'année suivante, donc j'ai fait une ADRAB. J'ai travaillé dans une menuiserie qui fabriquait des ruches avec des gens qui n'avaient pas travaillé depuis 2 ans. Et il s'agissait de les remettre au boulot. Donc je préparais les machines, je donnais les consignes, voilà. Donc à la sortie d'ATD Quart-Monde, je me suis retrouvé au chômage. J'ai bien essayé d'utiliser mes compétences en menuiserie, mais ça n'a guère été efficace et c'était vraiment pas ce dont j'avais envie. J'ai essayé des petits boulots, mais c'était pas possible parce que un curriculum vitae avec 5 ans de médecine, toutes les portes se ferment. Donc j'ai décidé de finir ma médecine et je me suis retrouvé à l'hôpital. Avec 5 ans de plus, et ça c'est vraiment complètement différent, j'étais devenu suffisamment adulte pour faire ce que j'avais envie, vraiment. Voilà, j'ai commencé à faire des remplacements, et par hasard, je me suis retrouvé dans ce quartier, ici au Val-de-Ruel. Et je me suis aperçu que j'avais un avantage formidable sur mon collègue de l'époque, parce que moi, je savais ce qu'il y avait derrière les fenêtres. Alors que lui, il savait pas obligatoirement. Je savais ce qu'il fallait que je fasse dans mon exercice pour qu'il soit accueilli. Et par exemple, toute ma vie professionnelle, j'ai laissé la porte ouverte pour les 2 ou 3 personnes complètement désorganisées qui n'allaient pas manquer d'arriver pour demander un rendez-vous pour leur gamin dans l'heure qui suit. Et mon boulot, c'est de faire, c'est d'ouvrir la porte, d'expliquer, d'organiser, d'apprendre. La fièvre, le nombre de fois où j'ai dit « mais oui, alors la fièvre, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Et recommencer, et recommencer, et aller contre ce que dit la maman, et aller contre ce que dit la voisine, et aller contre ce... voilà. Et vacciner, voilà, tour de bras. Et mais oui, les vaccins, ça peut pas faire de mal, et oui, ça... voilà, c'est... Et j'ai organisé ma petite vie au service des gens d'ici, et en particulier, j'ai fait tout mon possible pour ne jamais coopérer avec les services sociaux, pas parce qu'ils font mal, mais parce que quand on rajoute les services sociaux, plus la mairie, plus on a un tel carcan qui enferme les gens, que c'est pas possible. Donc le médecin, il se doit, pour le secret médical, mais aussi pour la vie toute simple, il se doit de pas participer à la chasse aux inhabituels. J'ai toujours peur qu'on dise que je fais de la médecine sociale. Je fais de la médecine, et accessoirement, c'est venu tout seul, mais j'aime mes patients. Mais c'est pas parce que j'aime mes patients que je fais de la médecine. Il faut bien serrer les choses. De toute façon, c'est un respect. Hein. En tant que professionnel, puisque je respecte mes patients, je leur donne quelque chose de professionnel. La pauvre petite de 20 ans qui a fait une fausse couche, c'est sûr que on a le cœur qui palpite un peu, mais c'est certainement pas le truc à dire. Rester professionnel, dire tout ce qu'on peut pour qu'elle elle aille confiante vers une prochaine grossesse. C'est oui, non, ça arrive à tout le monde. Tu t'en fais pour rien. Une femme sur deux fait des fausses couches. Mais tu le sais bien. Je l'ai pourtant déjà dit. T'inquiète pas. Tu en as. Le cœur, il est à l'intérieur, c'est sûr. On peut pas faire autrement, mais à l'extérieur, il a pas sa place. C'est pas chez un médecin, c'est pas ça. On fait ou du social ou de la médecine. On peut pas faire de la médecine sociale. On peut pas guérir le social. Faut être politique pour ça. Pas médecin. Donc en juin 2023, j'ai reçu un coup de téléphone comme quoi mes indemnités journalières étaient beaucoup plus importantes que les autres. J'ai pas cru, hein.
Qui vous a appelé ?
Je sais même pas, j'ai raccroché. Je sais même pas qui m'a... J'ai trouvé ça tellement aberrant que j'ai raccroché. Et donc j'ai reçu quelques jours après un courrier comme quoi « Vous n'avez pas voulu accepter le premier entretien qu'on vous a proposé ?» Oui, ça c'est sûr que j'ai pas voulu accepter, j'ai raccroché au bout de 15 secondes. Et donc... vous avez fait, je sais pas, trois fois autant de jours d'arrêt de travail que la moyenne des médecins qui sont censés travailler comme vous. Donc, c'est pas tolérable. Vous allez avoir la MSO, la mise sous objectif. C'est-à-dire, on oblige le médecin à faire le même travail, mais en donnant, pour moi, un quart de journée en moins. C'est absolument impossible. Enfin, ce serait léser mes patients. Il faut savoir aussi que la quasi-totalité des médecins s'arrête à cette mesure. Et moi, je me suis pas arrêté parce que comme je pars en retraite, je pouvais me permettre de pousser le conflit un peu plus loin. Mais quand on a sa carrière devant soi, on est obligé de s'arrêter. Et donc, les fameux médecins en question, qui sont obligés de faire moins 20% de leurs arrêts, ben, ils lèsent leurs patients. Moi, j'ai eu 4 mois où tous les arrêts de travail sont visés par un médecin conseil.
Vous êtes un peu sous contrôle.
Voilà, complètement, là, oui. L'embêtant, c'est que ça n'est... Il n'y a aucun aspect médical à cette histoire. On me reproche de faire 2,8 fois plus d'arrêts que la moyenne de mes confrères d'exercice comparable. On exige que je fasse 20% au moins. C'est signé par le directeur et c'est signé par un médecin conseil, mais le médecin conseil ne fournit pas de documents. Donc toujours pas de documents médicaux quand on arrive à la MSO. La mise sous objectif, la mise sous accord préalable qui vient après, le directeur continue de se baser que sur les statistiques. Après, il y a le passage devant une commission. À la commission, on peut donner des arguments médicaux. Le directeur n'est pas obligé de tenir compte de ces arguments, donc il n'en a pas tenu compte. Et cette commission a décidé à 7 membres sur 7 que la mise sous accord préalable n'était pas justifiée pour moi. Donc le directeur a dit non, c'est pas possible qu'avec des chiffres comme ça, ce soit comme ça, je maintiens la mise sous accord préalable. Alors, je devais mettre une demi-feuille de renseignements médicaux à chaque arrêt. J'ai dit, moi, je fais des arrêts depuis des années. Il n'est pas question que je fasse une seule chose de plus et j'arrête. J'estime que cette mesure est complètement, pas illégale parce que c'est légal, mais complètement hors de mon sens de la justice. Et donc, je ne veux pas l'appliquer. On m'a dit, très bien, vos patients vont pas toucher leurs indemnités journalières. J'ai dit « Très bien, à ce moment-là, je leur avancerai jusqu'à ce que vous soyez moins bête. » Et donc, j'ai avancé pendant un certain temps. Alors ça les a vraiment déstabilisés. Donc, j'ai fini par faire machine arrière parce que le député du coin m'a demandé de faire machine arrière. Mais je ne sais pas si je ne vais pas recommencer parce qu'il n'y a que ça qui les fait bouger.
Vous avez avancé combien d'argent ?
Oh, pas des quantités énormes. 4 500 euros, je crois. C'est que de l'argent avancé parce que la raison médicale, elle existe toujours. C'est juste la raison administrative. Donc, une fois que la raison administrative est rentrée dans l'ordre, la raison médicale reprend le dessus. Et voilà. Et donc, mes patients ont commencé à me rembourser.
Combien de patients vous avez aidés comme ça ?
Oh, une petite dizaine. Dans le cas précis, ce qui me fait le plus peur, c'est l'injustice qui commence là. Et là, c'est vraiment la Sécu qui est complètement responsable. Ils ont bâti un outil de tri des médecins qui dépassent les clous dans le département. Et cet outil, il est bâti en dépit du bon sens. Je peux vous donner un exemple. Le quintile de communes inférieure, c'est-à-dire ce qui est censé représenter 20% de la population la plus défavorisée en Seine-Maritime, non, il contient pas 20% de la population, il en contient 44%. Donc moi, mon combat, c'est pour que les gens des quartiers défavorisés en prennent pas plein la poire avant les autres. Alors c'est vrai que c'est des gens qui se défendent jamais, c'est vrai que c'est tellement facile de les obliger à faire des trucs. C'est pas possible que ce soit d'abord les gens défavorisés qui paient les pots cassés pour les indemnités journalières, alors que l'augmentation des indemnités journalières n'est due à personne. C'est ça le pire de tout. L'augmentation des indemnités journalières, c'est même pas dû à des médecins, c'est dû aux circonstances. J'ai expliqué et réexpliqué que c'est très simple. Moi, dans mon cabinet, je sais ce qui va pas. Quand j'appelle un médecin spécialiste, un chirurgien, pour un patient, il y a 7-8 ans, je décrochais mon téléphone, je disais « tu peux voir machin, j'en ai besoin ». Aujourd'hui, c'est plus possible. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, il y a zéro possibilité. Donc, je sais pas, un type qui a un accident de travail, qui se fait opérer du pied, au bout d'un mois, je vois que ça se passe mal, je veux voir le chirurgien, c'est pas possible. Il faudra qu'il attende le rendez-vous prévu, donc, je sais pas, un mois. Donc, je refais un courrier et on attend encore un mois de plus. Le système est au bord d'un point de rupture à cause du nombre trop peu important de spécialistes. Et puis, ne peuvent se payer des spécialistes que les gens qui paient des dépassements. Donc, évidemment, dans les quartiers défavorisés, il y en a énormément qui peuvent se payer des dépassements. Il y en a aussi énormément qui ont une mutuelle qui prend les dépassements. Et donc, on se retrouve donc avec seulement l'hôpital public. Et en ce moment, il y a un effet inverse. Ça s'appelle la loi de l'offre et la demande. Les spécialistes qui prennent des dépassements augmentent leurs dépassements et les spécialistes qui sont dans le public partent dans le privé et ont des dépassements. Le résultat, c'est que les possibilités offertes à mes patients défavorisés, c'est une peau de chagrin, il n'y a plus rien. Et donc, je me retrouve avec effectivement des arrêts bien plus longs qu'autrefois, puisqu'il faut le temps de gérer tout ça. Alors, j'ai commencé tout à l'heure, mais quand il y a besoin d'un chirurgien haut de gamme, c'est entre 4 et 6 mois des fois. Bon, et puis, il faut tenter le coup quand même, parce que si on tombe sur l'invalidité, ce ne sera pas terrible. Hein. Les gens qui n'y connaissent rien s'imaginent que dans un quartier défavorisé, des gens vivent des aides, s'amusent toute la journée, ne vont jamais travailler. Et bon, moi, je veux bien. Hein. Quand on a un RSA qui doit être à 450 euros ou quelque chose comme ça, on peut évidemment vivre des aides, mais certainement pas aller prendre des vacances. Hein. Et quand on arrive à nourrir les enfants avec les banques alimentaires, c'est déjà beau. Les maladies dans les quartiers défavorisés sont de façon connue beaucoup plus fréquentes que dans les autres quartiers. Le diabète 2,5 fois, les maladies cardiovasculaires 1,5 fois, l'obésité 2 fois, et des exemples comme ça, il y en a des tas. Il y a aussi des choses de la vie de tous les jours. Le nombre de personnes qui ont une activité dite précaire, c'est-à-dire moins de 10 jours par mois, est 2 fois plus importante que dans les autres couches de la population, et que dans ces travaux précaires, il y a 2 fois plus d'accidents de travail. Et pour moi, le chiffre qui est l'horreur absolue, c'est des dépressions du postpartum, c'est-à-dire les dépressions des femmes qui viennent d'accoucher. Dans la population générale, il y en a 15%, et dans les quartiers défavorisés, il y en a 30%. Ça dit des choses sur la vie de ces gens-là absolument terribles. Hein. Tous les chiffres que j'ai trouvés, ce sont ou des chiffres de l'INSEE, ou alors des chiffres de l'Observatoire des inégalités. Tout ça fait qu'il y a besoin d'un nombre considérable d'indemnités journalières en plus pour ces quartiers défavorisés, et que ça n'apparaît nulle part, et en particulier pas dans le fameux outil de référentiel de la Sécu qui nivelle tout ça. Et c'est une injustice terrible pour tous ces gens qui ont besoin de plus d'indemnités journalières. Des indemnités journalières, c'est des jours d'arrêt de travail. Il y a même quelque chose de complètement aberrant. J'ai rencontré à un moment, juste avant la commission, un directeur de la Sécu et un médecin conseil. Et j'ai parlé avec le médecin conseil un bon moment des arrêts longs qui étaient en cours. Et on s'est entendu à peu près pour dire qu'il y en avait un qui était douteux, mais c'est tout. Et puis après, quand je me suis retrouvé avec le directeur, j'ai dit il y a un moyen très simple de savoir si je suis ou non en dehors des clous. C'est normal que, vu mes chiffres, vous posiez des questions. Mais je vous propose de faire avec moi le médecin conseil, sur un mois de temps, tous mes arrêts les uns après les autres. J'ai des dossiers. La Sécu a des dossiers, donc il n'y a pas de problème. Jamais ils ont voulu. Il s'agit d'une manœuvre de la Sécu pour se passer des médecins conseils qui sont en nombre de plus en plus réduit. À partir du moment où seule la statistique est nécessaire pour mettre une sanction, tranquille, hein. Et du début à la fin, seule la statistique marche. Et maintenant, ils ont même supprimé la commission depuis février. Le directeur de la Sécu, il est détenteur d'un pouvoir, on dit, discrétionnaire. C'est-à-dire, à aucun moment, il ne doit se justifier de quoi que ce soit. Du début à la fin de la procédure, jamais, jamais, jamais. Et surtout pas un argument médical. Hein. À partir du moment où la statistique est juste, le reste n'a pas d'importance. J'ai entendu parler d'un médecin à Dunkerque qui en a marre aussi de cette histoire d'indemnité journalière et qui en est à son 22e jour de grève de la faim. Et le Conseil de l'Ordre ne le soutient pas, bien sûr. La mairie tout juste. Bon, j'ai pris contact et puis je vais avoir un contact téléphonique, mais 22 jours de grève de la faim, il commence à fatiguer. Hein. Ça, c'est d'être Séverine.
Ah oui, on attend. Je vous laisse aller ouvrir.
Je m'appelle Séverine, j'ai 52 ans et ça fait 35 ans que je suis patiente du docteur Dominique Trébillac. Donc j'ai vécu avec des parents qui étaient alcooliques, donc qui étaient difficiles à vivre. Donc c'est voilà, on a du mal à se remonter, à comprendre ce qui se passe quand on est enfant. C'est vrai que le docteur Trébillac a été vraiment un soutien ce moment-là, quoi. Parce que, avant, ils ne buvaient pas. Après, ils ont bu. Je me suis retrouvée à me dire, les études, j'en fais pas. Donc, je me suis retrouvée avec des emplois précaires. Et puis, mon dernier travail, c'était auxiliaire de vie. On m'avait demandé d'arrêter, déjà, parce que je m'étais déjà abîmé les genoux. Mais la caisse primaire d'assurance maladie m'avait mis en invalidité catégorie 2, mais avec une pension de 460 €. Je ne pouvais pas nourrir des enfants avec 460 €. Donc, je suis repartie travailler. Et puis là, ça a été le dégât. Le docteur Trébillac m'a dit « Je te l'avais dit ». Oui, je le sais bien. Maintenant, j'ai une discopathie sévère de la C5 et de la C6 avec tendinopathie et géote de l'épaule et les genoux qui sont repartis comme en 14, quoi. Et avec tout ça, on m'a découvert une maladie qui est des tremblements essentiels. Le docteur Trébillac a toujours été un soutien et même dans ma vie de tous les jours. En ce moment, je divorce. C'est un soutien aussi dans mon divorce. Il est présent. Il voit comment ça se passe, parce que je suis quelqu'un quand même, on va le dire, depuis l'âge de 15 ans, qui est dépressif. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a... Je vois même maintenant, si j'appelle et puis que Marie me dit il n'a pas de place, je dis c'est pas grave, on verra ça plus tard. Si Marie a ma voix un peu tremblante, j'entends une heure après, écoute, il veut te voir ce soir. Marie, là-dessus, moi, je dis qu'il a une bonne secrétaire médicale parce qu'elle est quand même à l'écoute. Et je dis, c'est le médecin de famille, comme dans le temps. Moi, je l'ai vu, mon premier enfant, un jour avoir un bouton sur la joue, mais comme je paniquais, elle est venue à 21h. Tout ça pour me rassurer. Donc, un médecin qui se déplace à 21h pour un bouton, pour un enfant. Voilà. Non, c'est vraiment le médecin de famille. Et il a vraiment pris sa clientèle en disant qu'il s'occupe de tout le monde, de la même façon. Donc, moi, je suis en accident de travail depuis un peu plus de 3 ans. Il était obligé de continuer l'accident de travail puisque, vous savez, j'attends j'attends le dossier NDPH, mais la NDPH, ils ont 14 mois de retard, donc... vous êtes un peu dépassé et vous allez à l'assistante sociale de la Sécu et vous leur dites « Je fais quoi ?»« continue l'arrêt, vous ne pouvez pas retravailler. » Donc, vous continuez l'arrêt. Il m'a refait ma prolongation le 30 janvier. Et donc, un jour, il m'a fait venir. Il me dit « Écoute, t'es pas payé, voilà, c'est pour ça. » Alors, je dis « Quoi ?» Mais je dis « Non. » Le lundi matin, parce que c'était le vendredi soir, j'ai appelé la Sécu. Ah, il nous devait la vérité. Ça faisait 14 jours que j'appelais, qu'on me faisait tourner en rond.
Et parce que vous n'étiez pas indemnisé pendant
Pendant 22 jours, je n'ai pas été indemnisée. Donc, on ne regardait pas si j'avais quelque chose dans l'assiette, si j'avais besoin. Non, rien. Personne ne s'occupait de rien. Donc là, je me suis mis à hurler. C'est là que je me suis mis aussi à appeler monsieur le maire, à monsieur le député. Et puis, comme il vous a dit, je suis une grande... Voilà. Donc après, il n'avait plus qu'à faire le reste, quoi. Et on a été là. Tous ces patients ont été là. Il y en avait qui proposaient d'aller bloquer la sécu. Il y en avait... c'était vraiment... on a eu plein de choses, vraiment, qui disaient « Non, non, on ne laissera pas notre médecin. » Aujourd'hui, son deuxième combat, c'est d'aider la population, parce que c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'en aidant des médecins, il aide la population aussi. Parce que quand un médecin aura atteint ses 20% de quota d'arrêt maladie, et puis que vous arrivez avec un super lumbago et vous ne pourrez pas travailler, puis qu'il vous dira « je ne peux pas vous arrêter parce que j'ai mes 20% de quota », vous faites quoi? On en est là. Moi, franchement, j'espère que la Sécu va s'apercevoir un petit peu qu'on marche sur la tête, là. On marche sur la tête depuis des années. C'est tout un cercle vicieux entre les indemnités journalières, le moins de médecins, moins de chirurgiens. Mais on est en train de faire un trou au niveau de tous les médecins qui veulent plus s'installer dans nos quartiers déjà, puis qu'ils ont peur et qui n'ont pas à avoir peur, puisque en fin de compte, si vous mettez ici un médecin, mais tout le monde va être heureux. Parce qu'encore en plus, à Dieppe, on trouve plus de médecins. Sure, and I still wonder why I ever wanted to see him more. I know it's useless to complain. C'était Le Docteur, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Clémence Grosse. Merci bien sûr à Dominique Tribillag, à Valentin Rémy qui est notre attaché de production et à Nour Mohamedi, notre stagiaire. Je vous rappelle par ailleurs que la nouvelle série d'Adila Benedjaizou, Le revers de la médaille ou ce que les médailles coûtent aux athlètes, est disponible sur le site de France Culture et l'appli Radio France, à ne pas manquer. Et pendant qu'on y est, que le film L'homme aux mille visages, réalisé par votre servitrice et inspiré d'un pied sur terre du même nom, sera dans vos cinémas à partir de demain, mercredi 17 avril, en partenariat avec France Culture. Intimate, it wasn't that bright. Yes, he was kind, polite, sounded sublime in a theory, but in practice, believe me, there was a nasty fire burning all stay just a little bit more. Just a little more, but now I'm grateful to the camel. There's all the